Alors, bonjour du Seigneur à tous. Comme on l'a chanté, comme notre frère, notre pasteur faisait allusion, c'est vraiment une grâce, le jour du Seigneur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà considéré, mais ce que le Christ a fait à la croix a d'ailleurs pour fruit qu'on a la liberté de s'approcher du Dieu Trine. De Dieu Saint, non seulement de son trône, mais ici maintenant, de se réunir en ce lieu, en son nom, écouter la parole et savoir qu'on peut l'adorer d'une manière qui l'honore, non tachée de nos œuvres qui sont souillées, mais en Christ, véritablement, de se savoir aimé et libre d'accès au Père éternel qui est dans les cieux, qu'on appelle notre Père. C'est vraiment une grâce. Et je voulais juste le souligner. Aujourd'hui aussi, que plusieurs d'entre nous ont couru un petit peu avant le culte. Mais c'est correct, parce que c'est le jour du Seigneur. C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre parole, votre Bible, la parole de Dieu, et vous levez avec moi pour la lecture du passage d'aujourd'hui, qui se trouve en Philémon. Philémon, si vous avez la version NEG, c'est la page 1202. Sinon, je ne sais pas trop, mais ça se trouve en Tite et Hébreu, encore une fois. Donc, le texte d'aujourd'hui portera sur les versets 8 à 16, mais pour se remettre un petit peu en contexte, on va lire à partir du verset 1. Alors, l'Épître à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Je n'ai rien voulu faire sans, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Parole de l'Éternel. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, au cours de l'exposition des 7 premiers versets, les dernières fois, on a vu l'introduction de l'apôtre Paul à son épître à Philémon, et on a pu déballer les versets et y voir son approche. Pour ancrer sa requête, qui suit, qu'on va voir aujourd'hui, au cœur même de son adresse se trouvait l'Évangile. La grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre s'adresse à son frère bien-aimé et compagnon d'œuvre, un disciple qui est manifestement fidèle, et même qui a su apaiser les cœurs de sa congrégation. Et plutôt que de lui lancer directement le sujet de pourquoi il lui écrit, Paul prend plutôt le temps. Et il prend le temps avec intention. Ses mots sont remplis d'intention. Pour introduire son message, en fait, qui est d'une manière revêtue d'amour. D'une manière qui démontre à Philémon combien ce qu'il l'aime et combien il est reconnaissant envers Dieu pour l'œuvre qu'il fait en lui. Et tel que mentionné, cette œuvre-là accomplie en Philémon, eh bien, c'est nul autre que l'Évangile appliqué par l'Esprit à l'âme de la brebis du Seigneur. Et cette œuvre-là est toujours suivie de la présence de fruits. Donc, notre passage d'aujourd'hui, la péricope, elle peut être séparée de la manière suivante. Les versets 8 et 9, qui nous apprennent sur l'approche de Paul, encore une fois, mais au nom de l'amour. Les versets 10 et 11, qui nous parlent de la conversion d'Onésime. Les versets 12 à 14, qui expriment la requête de Paul. Et les versets 15 et 16, la raison du Dieu souverain dans cette situation-là. Donc, Paul poursuit au verset 8 et 9 en disant « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière ou que je plaide avec toi. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Il poursuit premièrement avec « C'est pourquoi ». Ce qui fait évidemment référence à ce qui a été dit de Philémon juste avant. C'est ce qu'on a vu dans les 7 premiers versets, dans les dernières expositions. Dû au fait que Philémon est son frère bien-aimé, dû au fait qu'il connaît l'authenticité de sa foi, dû au fait que Philémon avait déjà même un comportement qui honorait le Seigneur, dû au fait qu'il voit manifestement sa foi mise en pratique par l'amour qui découle naturellement de lui. Il apaisait les cœurs de sa congrégation. Et ce, malgré ses lacunes, malgré ses angles morts qu'on a déjà mentionnés, qu'il pourrait avoir. Il portait du fruit. Mais par-dessus tout ça, dû à la grâce et la paix reçues de Dieu, et qui se doivent naturellement de transformer la manière de penser et d'agir d'un disciple de Christ. Paul décide de s'adresser à Philémon d'une manière qui revête ce même amour-là. Ce même amour dont il est également bénéficiaire en Christ. Et l'apôtre s'apprête à demander à son frère de continuer, en fait, à porter le fruit qu'il porte, mais maintenant envers Onésime, de la même manière qu'il le faisait avec la congrégation de Colosse. Et Onésime, c'est un esclave dans le contexte romain. Contexte romain où la loi permettait à Philémon de faire littéralement ce qu'il voulait avec lui. Mais Paul s'apprête à lui demander un comportement qui est digne de la grâce et de la paix qu'il a reçu de Dieu. Et pour ce faire, il mène par l'exemple. Il mène par l'exemple en agissant envers lui de cette même manière-là qu'il va lui présenter. Et comme on l'a lu plus tôt, il met en pratique, en fait, ce qu'il commande à toute la congrégation dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 14 et 15. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Donc, on voit que tous ces éléments-là, sur la base des 7 premiers versets, se trouvent justement dans l'introduction de la lettre à Philémon. L'apôtre pratiquant ce qu'il prêche. C'est ça le pourquoi, c'est ça ce que le c'est pourquoi nous indique, en fait. Et par le fait même, on y voit en Paul, dans cette approche, dans cette initiative un véritable leadership. Un leadership d'un père dans la foi envers un de ses enfants qu'il a engendré. D'un ancien envers un membre d'une congrégation bien-aimée. Plutôt que de prescrire un commandement, comme on l'a dit, il plaide avec Philémon. Plutôt que de brandir son apostolat, il se nomme lui-même vieillard prisonnier de Jésus-Christ. Et le fait même que Paul soit âgé, et qu'en plus de ça, il soit dans les chaînes pour la cause la plus aimante qu'il soit, l'Évangile, ça devrait déjà être suffisant pour Philémon de considérer l'exhortation avec beaucoup de respect et d'égard. Mais toutefois, c'est quand même à l'image du Christ que Paul agit. Le Christ qui, lui, de la gloire qu'il avait auprès du Père, de toute éternité, ne l'a pas regardé comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Paul qui avait reçu autorité du roi des rois, qui aurait pu commander la chose à Philémon, a plutôt décidé de s'abaisser, comme le Christ, de condescendre vers son bien-aimé. Donc, comment vivre en fonction de la grâce qui nous a été donnée, en fait? Quelle posture de cœur l'apôtre se devait d'adopter pour faire face à cette situation-là? Bien, c'est la même posture de cœur, la même disposition qu'il exhorte Philémon d'avoir. Comme il le dit aux Philippiens, c'est en fait se revêtir des sentiments qui se trouvaient en Jésus-Christ. L'amour condescendante du ciel vers un pécheur et blasphémateur comme Saul de Tarse, persécuteur de l'Église. La grâce qui le fait naître de nouveau, lui, Saul de Tarse, c'est cette grâce-là qui le pousse à s'adresser à son frère bien-aimé de cette manière. Donc, il adopte cette posture-là parce que, en fait, c'est la moindre des choses à faire. Étant lui-même bénéficiaire d'une grâce infiniment plus grande, quoi d'autre faire? Il aborde donc Philémon par son propre exemple et souhaite gagner son cœur par la vérité de l'Évangile. Parce qu'il sait, en fait, et ça va devenir comme un refrain pour nous dans cette épître, parce qu'il sait que l'obéissance qui provient d'un cœur qui a mûri dans la grâce de Dieu et qui désire faire des bonnes œuvres par amour, simplement par amour, vaut bien plus qu'une obéissance vide de fondement. Et au verset 10, vient maintenant le sujet de sa requête. On lit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » C'est juste maintenant qu'il nomme de qui il parle. 10e verset, c'est presque la moitié de l'épître. Parce qu'en fait, les fondements devaient être posés. C'était très important, surtout avec la délicatesse du sujet, d'approcher ça d'une manière revêtue de l'Évangile, de l'amour. Et ça nous rappelle aussi comment l'Esprit utilise la parole pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous instruire, nous corriger. Et Paul, en fait, est l'auteur biblique par excellence pour nous montrer ça. Comme à chaque épître qu'il écrit, on voit le fondement théologique qui soutient qu'est-ce qu'il commande, n'est-ce pas? Il démontre comment les fondements, justement, théologiques sont primordiaux pour une mise en pratique fidèle de la doctrine. Une bonne pratique divorcée de la bonne doctrine, en fait, c'est que du moralisme. Ou pire, c'est du légalisme. Mais les bonnes œuvres qui découlent d'un cœur régénéré, qui sont faites en réponse de la grâce reçue, simplement par amour, ces œuvres-là sont des sacrifices de bonne odeur. Ça honore le Seigneur. Et c'est ainsi qu'un disciple, en fait, est appelé à vivre. C'est le cas de nous tous. Ayant l'Évangile pour fondement, c'est notre raison, étant l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. nous dit Éphésiens 2:10. Et l'apôtre continue, verset 11, avec un jeu de mots sur Onésime, sur le nom d'Onésime. Son nom veut dire littéralement « utile », c'est ce que ça veut dire. Il lui dit donc que, bien qu'autrefois, Onésime était inutile dans son service, en plus de s'être enfui et de l'avoir probablement volé, aujourd'hui, il est utile. Il remplit maintenant son nom. Il répond à son appel. Autrefois, il fuyait ses devoirs et volait autrui. Mais il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Comme on lit en Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. De la même manière, étant venu à la foi en Christ au moyen du ministère de Paul, en prison, Onésime s'est repenti. Autrefois, il fuyait ses tâches, il dérobait même, non seulement le temps, mais probablement des biens aussi. Mais maintenant, il met à l'œuvre ses mains et se donne entièrement à son service. Et c'est véritablement ce qui se passe quand Dieu sauve un pécheur. Cette personne-là est fait d'elle une nouvelle créature, complètement. Il est transformé. Quand Dieu sauve un pécheur, le Saint-Esprit attire efficacement le pécheur par la prédication de la parole. Dieu vient changer son cœur de pierre en cœur de chair. Il donne une sensibilité, une disposition sensible à la vérité de l'Évangile. Et le pécheur vient à reconnaître son propre péché contre le Dieu qui est infiniment saint. Et il reconnaît qu'il mérite justement l'enfer. Il le voit et il se tourne vers le seul qui peut l'en délivrer, le Christ, qui par sa vie de souffrance, menée en obéissance parfaite, a accompli la loi et a subi la malédiction pour son peuple. Et en posant sa foi en lui, en Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour ses péchés, en se confiant entièrement en lui seul pour son salut, le pécheur est justifié par la foi, mais il mène désormais une vie de repentance. Maintenant, il a un cœur nouveau. Il se détourne de ses mauvaises voies. Il rejetait le Christ autrefois, mais maintenant il se confie en lui seul. Ce qui fait en fait que s'il blasphémait, maintenant il tremble devant la majesté de Dieu. Il cherche à l'honorer en parole et en action. S'il dérobait, maintenant il travaille honnêtement de ses mains. Il donne à son prochain. Il se repente. Et maintenant, quand il considère la loi morale de Dieu, il voit encore plus comment son péché est rémanent, combien sa repentance est quotidienne, ou se doit d'être quotidienne. Mais un véritable changement a lieu dans le pécheur qui est justifié et sanctifié. C'est une véritable conversion. Il y a un changement de pensée, il y a un détournement de ses propres voies, un changement de paradigme au complet. C'est une nouvelle créature. Et ça va bien au-delà du regret ou du remords. C'est enfin un abandon de soi, un abandon au pied de la croix et un engagement de marcher dans les voies du Seigneur en reconnaissance de cette grâce-là, de cette paix qui a été obtenue en Christ. Et Onésime, l'esclave, a reçu la bonne nouvelle du Fils de Dieu par la prédication d'un prisonnier. Il se l'est approprié après. De cette manière-là, un esclave qui reçoit la bonne nouvelle du Fils de Dieu, la délivrance de ses péchés par un prisonnier, il réalise que son esclavage, en fait, était bien plus grand que celui de la chair. Il est esclave du péché. Il était sous l'empire du péché. Il s'y tournait constamment, en fait. Sa nature était radicalement corrompue. Et fort probablement, en fait, assurément, il ne le réalisait pas à ce moment-là. Comme nous tous, il s'auto-justifiait. Il a fui. Il croyait certainement que ses voies étaient les bonnes. Il rejetait Dieu devant qui il est inexcusable. Il ne le réalisait pas. Mais par la prédication d'Évangile, le Saint-Esprit a changé son cœur. Il lui a montré la vérité de sa dépravation et la justice de sa condamnation. Mais il s'en est repenti. Et maintenant, il vit en remplissant son nom. Avant, il était inutile. Mais maintenant, il se donne au service avec grande utilité. Il marche maintenant dans l'appel du Seigneur, selon l'identité qu'il a en Christ. Et Paul, lui, bien, ayant été utilisé par le Seigneur pour mener Onésime à une réconciliation avec Dieu, étant témoin aussi de ce miracle-là, opéré dans un esclave pécheur devenu libre en Christ, Paul ne peut que déborder d'affection pour lui. Il identifie Onésime au verset 12 comme étant une partie de lui-même. Et ici, en fait, il utilise le même terme qu'au verset 7, où il disait que Philémon a su tranquilliser les cœurs des saints de Colosse. Cette partie de lui-même, là, c'est ses entrailles, ses tripes, son cœur. C'est le plus profond de ses affections. La conversion d'Onésime était authentique. Et donc, ça a eu pour résultat d'établir un lien tout spécial avec son père dans la foi. Et à ce moment-là, il n'était plus question d'esclave ni homme libre. Il faisait partie de la famille de Dieu. La famille. Pas une famille de chair et de sang, mais une famille spirituelle établie par le corps brisé, par le sang le plus précieux qui soit, celui du Christ qui a coulé pour eux. Et c'est maintenant que Paul avance sa requête. Il dit versets 12 à 14, « Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Le lien de communion que Paul et Onésime avaient ensemble et profitaient avait vraiment beaucoup de valeur, on le voit. C'est un grand bien pour tous les deux. Onésime assistait l'apôtre à la manière d'un diacre fidèle qui fait tout par bienveillance, qui s'assure de répondre aux besoins pratiques et de faciliter le service de l'apôtre. Comme un serviteur fidèle et exemplaire, véritablement. Et l'apôtre en était grandement édifié. Même que son cœur se réjouissait en Onésime, comme un père se réjouit en un fils honorable. Mais bien que Paul aurait pu et aurait même voulu garder le statu quo, parce qu'après tout, Onésime était quand même une nouvelle créature. Toutes les choses étaient passées. Toutes choses sont maintenant rendues nouvelles. Il aurait pu et il aurait voulu garder le statu quo. Mais il a tout de même choisi d'agir intègrement en cherchant le consentement de Philémon. Et c'est bien intéressant. Et il reconnaît que la chose éthique à faire, en fait, ce qui allait le plus honorer le Seigneur, c'était de lui renvoyer Onésime. Et ça, il fait ça pour deux raisons. La première, bien, c'est ce qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises depuis le début de l'Épître. Comme on ne peut pas considérer accomplir les commandements de Dieu en dehors de l'obéissance de Christ, comme une foi salvatrice produit toujours de bonnes œuvres. Comme l'orthodoxie mène à l'orthopraxie. On ne peut pas les divorcer. Comme Paul communique toujours le fondement théologique avant de commander un comportement, l'apôtre veut que Philémon considère la grâce et la paix qu'il a obtenue de Dieu et qu'en réponse à ça, de lui-même, il libère Onésime en le renvoyant auprès de Paul de son propre gré. Il veut lui donner l'opportunité, en fait, de faire cette bonne œuvre-là. Parce que, on le répète, selon la loi romaine, Onésime appartient à Philémon. Il aurait pu faire de lui ce qu'il veut, c'était la loi. Mais il lui demande plutôt de le relâcher, ce qu'on voit clairement versets 13 et 14, et d'agir selon les voies de l'Évangile plutôt que du monde. D'être transformé, d'être renouvelé, et non d'être conformé aux manières du monde. Et il souhaite cependant que ça soit son initiative. Bien sûr qu'il lui communique, mais il lui communique d'une manière que ça devienne l'initiative de Philémon, de le faire comprendre le raisonnement en arrière, de faire comprendre la grâce de Dieu. Que ça ne soit pas forcé mais volontaire de sa part, il dit. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres qui proviennent d'un cœur régénéré et qui a mûri dans la grâce de Dieu valent toujours plus qu'une simple obéissance sans fondement. Mais deuxièmement, tout comme Philémon, Onésime a été réconcilié avec son Père qui est dans les cieux. Paul renvoie donc Onésime auprès de Philémon pour qu'il soit réconcilié, ou du moins pour que leur réconciliation spirituelle soit manifestée ici-bas, que ça soit concret, qu'on le voit. Et qu'on le voit dans ce cas-là par un comportement qui en rend témoignage. Ils souhaitent, en lumière de leur réconciliation éternelle, que eux se réconcilient aussi. Et comme Paul est au courant du passé d'Onésime, a priori, de sa fugue, de ses péchés contre Philémon, on peut en déduire qu'Onésime a premièrement confessé son péché à Paul. Il l'a confessé. Il ne l'a pas fui, il l'a reconnu. Ensuite de ça, il s'en est repenti. Et on le voit manifestement par son service, par son cœur qui déverse dans son service. Mais maintenant, il est prêt à le démontrer en retournant auprès de Philémon pour se réconcilier. Et il va bien sûr de bonne attitude. On apprend aussi qu'il retourne accompagné de pas n'importe qui. Si je me rappelle bien, son nom c'est Tychic. Il est accompagné de quelqu'un qui est tenu à hauts égards dans le milieu de l'église de Colosse. Il est envoyé avec lui. Il n'est plus vu comme un simple esclave, il est vu comme un frère. Il est élevé. Mais il est prêt à retourner à Philémon malgré ça, malgré qu'il est libéré pour se réconcilier. Comme Paul l'écrit à toute l'église de Colosse, Onésime est prêt à demander pardon et Philémon devrait le pardonner tel que Christ l'a pardonné. Et les deux raisons qu'on a identifiées sont en fait ancrées dans un propos éternel, celui du décret qui établit toute chose, du décret de Dieu qui compte à bien pour ses enfants, même leur malheur. Les versets 15 et 16 nous montrent un aperçu de la raison du Dieu souverain dans cette situation-là. On lit « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Pour Onésime, Dieu a compté à bien son esclavage. Le malheur d'Onésime d'être dans les chaînes n'avait pas échappé à Dieu, vous voyez. S'il était dans les chaînes, en fait, c'était parce que Dieu l'avait décrété. Et ceci, certes, pour une raison qui nous dépasse largement. Mais on peut tout de même appréhender, voir la sagesse, l'amour, la bonté, la toute-puissance de Dieu en arrière de ça. Onésime était l'esclave inutile dans cette voie-là. Son maître est devenu chrétien. Et dans sa maison se réunissait l'Église en plus de ça. Il pouvait donc fort probablement entendre la parole prêchée chaque semaine. Il a certainement entendu l'Évangile. Mais Onésime s'est endurci. Même en plus de s'être endurci, il a fui, il a dérobé son maître. Et Dieu a établi ça en laissant Onésime s'endurcir, en s'enfonçant dans son propre péché, pour le mener auprès de Paul le prisonnier. Mais prisonnier dans les chaînes pour la bonne cause cette fois-ci. Ce prisonnier-là lui a montré que son véritable esclavage, comme on l'a mentionné, c'était sa nature pécheresse. Dieu aurait pu le convertir en écoutant la parole chez Philémon. Il aurait pu convaincre son cœur, le changer complètement et le faire faire demi-tour, comme il l'a fait avec Paul. Mais Dieu a établi, dans sa toute sagesse, afin d'amener davantage à la lumière le péché d'Onésime contre son Dieu, qui est trois fois saint. Il a utilisé cette situation-là dans laquelle il se tenait pour mettre à la lumière son péché. Il a compté à bien toute cette situation-là en l'utilisant pour mener Onésime à une vraie repentance. Il a vu son véritable esclavage. Il n'y a rien qui a échappé à Dieu. Il a plutôt établi toute chose par son décret. Et pour Philémon, étant déjà devenu disciple de Christ, eh bien, il était exhorté, sans doute, à traiter ses serviteurs au plus haut standard. De ne pas se conformer à la loi romaine, mais au standard de Dieu. De se rappeler que, bien qu'il soit maître, lui-même a un maître qui est dans les cieux. Et ce maître-là n'a pas de parti pris pour lui entre deux de ses enfants. Sa nouvelle identité se devait d'informer ses relations interpersonnelles, même avec Onésime. Et Dieu a permis la fuite d'Onésime. Et donc, c'est dur à dire, mais une perte pour Philémon. Mais sa toute sagesse nous montre qu'en fait, il a gagné bien plus. Ce qu'il pensait avoir perdu était rien. Dieu utilise la repentance d'Onésime et son retour même vers lui pour le sanctifier, pour lui montrer là où il doit encore se repentir, pour se réconcilier, pour lui faire porter plus de fruits et pour lui faire gagner un frère. Encore une fois, la perte qu'il croit avoir courue n'est vraiment rien, comparativement au gain de la sanctification, de ce que la sanctification procure dans le cœur d'un croyant. Et encore une fois, rien comme le gain d'un frère pour l'éternité. Dieu a donc aussi compté à bien cette situation-là pour Philémon. Il avait sujet encore de se repentir et d'être sanctifié. Et ça nous rappelle que nos malheurs, nos afflictions, nos pertes, nos souffrances, toutes ces choses, ne sont que temporaires et servent toujours à la gloire de Dieu, en fait. Ce n'est que pour un temps, afin de porter un fruit pour l'éternité, comme il l'a dit à Philémon. Le même qui décrète toute chose est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Il ne les abandonne pas au tourment. Il ne les abandonne pas dans la tempête, dans leur malheur, mais il les secourt. Il les établit, il les sanctifie, il les conforme à son image. Alors, reconnaissant la souveraineté de Dieu, on devrait de cette manière-là eh bien, lui faire confiance en toute chose. Quand il nous fait passer par une vallée, quand il nous fait passer par des tribulations, quand il vient défricher la terre dans notre cœur, qui vient enlever les racines, les résidus de pierre, les racines mauvaises qu'il y a encore. On devrait en fait adopter une posture d'humilité. On devrait être à l'écoute de Dieu qui veut nous sanctifier, qui ne fait jamais rien pour rien. Alors, n'endurcissons pas nos cœurs. Fléchissons plutôt le genou. Reconnaissons en fait que la couronne de la piété vaut tellement plus qu'un gain charnel, peu importe notre situation. Parce qu'en fait, c'est toujours à la gloire de Dieu. Que nos délices se trouvent vraiment dans la communion qu'on a avec notre Dieu. Et que de cette manière-là, qu'on fasse face au péché rémanent en nous avec une véritable repentance. Que cette communion qu'on a avec Dieu soit véritablement tout ce qui est le plus précieux. Et que les sujets de repentance nous poussent à nous mettre à genoux. Ne nous éloigne pas de cette communion-là, mais ne voulant pas attrister le Saint-Esprit, qu'on soit toujours donné à la repentance. Que toute situation que Dieu utilise pour nous montrer notre péché ne soit pas pour nous des charbons ardents au-dessus de notre tête, parce que c'est ce que c'est, mais que ça soit plutôt des opportunités bénies de s'accrocher toujours plus au Seigneur, de persévérer dans ses voies, de s'humilier, qui fasse de nous, en fait, des guerriers avec des cœurs aimants et humbles. Guerriers en ce qu'on se revêtit de l'armure du chrétien. Guerriers face au péché, mais face à un frère, doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Qui fasse de nous, en fait, des disciples qui ne confessent pas seulement la souveraineté de Dieu, mais qui le croient avec toutes les fibres de leur être et qui mènent leur vie en conséquence. Et dernièrement, on a terminé un bouquin dans les études du mercredi qui mettait véritablement de l'avant le fait de faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Lui qui est souverain, mais qui est bon aussi, qui est sage, qui est tout-puissant, mais sage, qui est véritablement digne de confiance. Eh bien, est-ce qu'on fait juste dire « Amen » à cette doctrine? En tant que réformé, on est très porté à parler de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Et on fait bien, je pense. Mais est-ce qu'on fait juste le confesser ou est-ce qu'on le croit? Quand on passe par l'épreuve, par la tribulation, quand Dieu montre notre péché, quand Dieu établit qu'on passe par une situation ignoble, quelle est notre position de cœur? Est-ce qu'on plie les genoux et on fait confiance au Dieu souverain qui est bon, qui prend soin de ses brebis? Est-ce qu'on se remet à lui ou est-ce que c'est que des bonnes paroles quand tout va bien? Même si on ose le dire quand tout va mal, est-ce qu'on le croit? Est-ce que, lorsqu'il nous fait passer par l'épreuve, ça fait de notre cœur un cœur qui mûrit, qui va dans les profondeurs de la communion avec Dieu et qui établit véritablement sur son roc, où ce n'est que quelque chose d'intellectuel? Pour continuer avec d'autres applications, la conversion d'Onésime devrait nous rappeler d'où on vient. Parce que tout comme Onésime, on était tous esclaves du péché, d'un esclavage bien pire que celui de la chair. Mais Christ nous en a délivrés. Et la situation de Philémon devrait nous rappeler à son tour que la repentance, c'est l'histoire d'une vie. Ce n'est pas une chose qu'on a faite lorsqu'on est venu à Christ, que tout d'un coup, je n'ai plus rien à travailler en moi, que je ne pèse jamais. On sait qu'on est déclaré juste. Mais notre corps de malheur nous mène constamment à la tentation? Est-ce qu'on vit une véritable vie de repentance? Onésime porte bien son nom maintenant. Et nous, sur qui Dieu a mis son nom en tant que peuple, baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, on est sa propriété. Tout le monde est esclave. Tout le monde est serviteur. On appartient à celui qui est bon. On devrait donc marcher selon cette identité. L'exemple de Paul, la situation de Philémon, devrait nous exhorter, encore une fois, à l'humilité. Quand on pense y être arrivé, à la stature de Paul qui est exemplaire, ou même Philémon qui portait déjà beaucoup de fruits, et à vrai dire, c'est dur de trouver un aussi bon compliment de dire à quelqu'un qu'il a su apaiser le cœur des autres. C'est un très beau compliment. Il portait de très beaux fruits. Mais même si on pense être rendu là, si on pense dire « We've made it », j'y suis arrivé, eh bien Dieu met bien souvent des difficultés dans nos vies. Et il le fait parce qu'il châtie toujours ceux qu'il aime. Donc encore une fois, c'est quoi notre approche face à ça? Prosternons-nous devant notre Dieu. Cherchons sa face par la prière, par la parole. Demeurons enseignables. Il ne fait rien pour rien. Jamais. Soyons disposés à sa correction. Soyons disposés à son exhortation. Parce que la douleur qu'on pense vivre dans ces moments-là vaut toujours la peine. Dieu est bon. Il pardonne. Il fait de nous des disciples à l'image de son Fils. Il les fait toujours par amour. Même lorsqu'il sort la verge, il est un Père aimant. Toujours. Et de plus, quand on fait nous-mêmes face à une situation comme celle de Paul, qui est décrite dans l'Épître. Quand on est dans une position d'autorité, au travail, en tant que parent, dans le mariage, dans l'Église, name it. Peu importe à quel point notre intervention peut être légitime, en fait, notre disposition de cœur, nos paroles, nos gestes, devraient être pleinement revêtus d'amour. Avoir de l'amour pour son frère dans une situation comme ça, ça ne veut pas juste dire la vérité. Paul a dit la vérité à Philémon, mais il le dit d'une manière remplie d'amour. Il s'est revêtu d'amour. Et on ne parle pas ici d'une sainte colère. Ça peut peut-être être légitime, ça. Mais combien on peut être rapide sur cette gâchette-là aussi, hein? C'est quoi notre première approche, même dans un cas où notre colère pourrait être sainte? Notre posture première devrait être celle de Paul. Ce n'était pas petit, ça, ce sujet-là. Ça devrait être celle de Paul qui, lui, imite Christ. Paul nous montre à favoriser un comportement qui prend l'initiative sur la base de la grâce et la paix reçue de Dieu. On doit donc nous-mêmes s'en revêtir. Agir en sorte de donner l'opportunité aux bien-aimés, parce qu'ils sont des bien-aimés, de faire pareil. On doit toujours préférer agir au nom de l'amour. Et comme Richard Phillips le commande, ce principe-là devrait aussi former la façon qu'on élève nos enfants, puisque Dieu a déversé un tel amour paternel sur nous. C'est tout autant applicable. Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté. Et nous qui sommes maintenant sa propriété, nous qui sommes ses serviteurs, nous qui avons un cœur, si Dieu nous l'a donné, régénéré, conformé à l'image de Christ. Il faut adopter la manière du caractère de Dieu même, dans toutes nos relations, incluant celles des parents envers leurs enfants. Lent à la colère, riche en bonté. Il continue, l'amour devrait aussi gouverner notre manière d'interagir dans l'Église, parce que, puisque tous les croyants sont ceux qui sont aimés par Dieu et son Fils, ceci devrait spécialement gouverner comment nous répondons lorsque nous sommes sûrs que certains nous ont fait du tort. Même si on est justifié, sanctifié, à l'image du Christ, on l'a dit, le péché rémanent en nous. Combien on peut être parfois rapide sur l'autre gâchette qu'on a, de s'auto-justifier. Mais encore une fois, Dieu ne met pas des situations dans notre vie, des difficultés, des injustices, pour aucune raison. Mais toujours, il a un propos. Et c'est pas possible, et je continue sa citation, pour nous de montrer plus d'amour aux autres que Dieu nous l'a montré en son Fils. Tout comme nous n'aurons jamais à pardonner des péchés plus que Dieu qui a pardonné nos propres péchés contre sa sainte loi. Alors remplissons les paroles de l'apôtre aux Colossiens. Et comme des élus de Dieu, revêtons-nous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportons-nous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Et comme il continue pour continuer sa citation encore une fois de Philippe, l'Église de Jésus-Christ est une place où plusieurs qui ne peuvent pas trouver d'amour ailleurs peuvent faire partie d'une famille. Soyons sensibles à ça. L'Église est la place où, même si on vient d'un contexte où on a perdu nos parents, on a perdu notre famille, on a été abandonné, on a des frères et sœurs qui nous maltraitent, peu importe cette situation, l'Église est la place où on trouve une véritable famille. Une famille qui n'est pas temporelle, qui est bien sûr imparfaite parce qu'on est imparfait, mais qui est sur la base du corps et du sang versé pour nous, qui nous transforme, qui nous guide par l'Esprit Saint, qui veut qu'on marche par amour. Il est souverain sur ça aussi, vous voyez. Peut-être qu'on a tendance à penser à la souveraineté de Dieu dans nos malheurs. Et c'est amen. Mais il est aussi souverain dans les bonnes choses. Il nous guide aussi dans ses grâces qu'il nous a rachetées à la croix. Par la foi en lui, on obtient cette famille. Alors combien est-ce approprié pour Paul de faire appel à l'amour pour un membre de Christ et son Église? Encore une fois, soyons sensibles à ces réalités-là. Ayons des entrailles de miséricorde. Agissons au nom de l'amour. Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Paul savait comment s'adresser à Philémon. Certes, il y a un dénominateur commun, grâce et paix, mais il connaissait Philémon. Philémon était quelqu'un qui avait su apaiser le cœur des autres. Donc il a cherché à apaiser son cœur, comme lui l'avait fait aux frères de Colosse. Parce qu'en fait, comme Jésus l'a dit, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Prions. Ô Père éternel, que tu es bon envers nous, que tu es miséricordieux. Le fait que tu daignes t'adresser à des pauvres pécheurs esclaves de leur propre péché, comme moi dont je suis le premier, pour venir nous sauver, nous régénérer, de dire que la lumière soit et de se relever d'entre les morts avec ton Fils. Combien ce mystère dépasse mon entendement. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous fais. Non seulement de nous avoir donné ta grâce et la réconciliation qu'on a en toi, avec toi. Mais Seigneur, merci de nous avoir donné cette famille qu'est l'Église. Merci pour cet exemple de Philémon, d'Onésime, de Paul, qui, oui, avait certainement des propos, comme on l'a mentionné, qui dépassaient qu'est-ce qu'il pouvait voir, toi qui établis toutes choses. Mais ces propos-là se rendent même à nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'avoir conservé cette épître, cette petite épître, personnelle, semblerait-il, à travers les siècles, pour notre instruction. Merci, Seigneur, de nous apprendre, de nous exhorter dans l'amour. On le voit retentir à travers les paroles de ton apôtre, guidé par ton esprit, ton amour, qui nous mène constamment à la repentance, mais d'un cœur, justement, qui ne s'endurcit pas. En puisses-tu éloigner loin de nous l'endurcissement des cœurs? Puisses-tu, Seigneur, faire de nous des disciples qui se courbent devant toi, qui ne relèvent pas le menton? Puisses-tu, Seigneur, faire de nous des disciples humbles et doux de cœur, comme notre bon berger? Parce que, Seigneur, ceci te rend gloire. On veut être un parfum de bonne odeur pour toi. Je reconnais, Seigneur, que dans mes voies, que dans ma vie, il y a certainement des roches, des racines enfouies dans mon cœur qui doivent être défrichées. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir contempler ta parole, ta volonté à travers ça. De pouvoir chercher à l'appliquer dans nos vies. T'honorer, t'exalter, et que tous puissent reconnaître qu'on est tes disciples. Toi seul la gloire, uniquement qu'à toi, dans le nom de Jésus. Amen.